Alors, rebonjour à tous, vous allez bien ce matin?
Oui.
Ah, c'est bien. Nous avons des bonnes nouvelles, nous sommes sur le point d'enregistrer notre premier CD. Nous avons 20 titres, on va en choisir 12 sur les 20. On va trouver un bon photographe pour la pochette, parce qu'il faut que ça soit beau. Et puis voilà, et puis ça va être une bénédiction pour tous ceux qui nous écoutent sur Internet et partout dans les tournées que nous faisons, nous allons pouvoir apporter ces CD et ça, on va pouvoir chanter dans les maisons, les gens vont pouvoir apprendre nos chants. Ça va être une bénédiction pour beaucoup parce que j'aime beaucoup ce que vous faites. Vraiment, c'est bien. Ce sont des chants originaux qui sont chantés nulle part ailleurs et c'est moi j'aime bien. Parce que d'abord, parce que je vous aime bien, mais ensuite, parce que bon, c'est vrai que c'est quand même de la qualité. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui.
Hein, c'est bien. Donc on a trouvé un studio, enfin, c'est bien, je suis très content. Il y a une deuxième chose qu'on a décidé hier, mais tout le monde n'est pas encore au courant. Tout le monde n'est pas encore au courant. Vous savez que cette année, on fête nos 40 ans de vie communautaire. Alors on a décidé que, comme on est amoureux les uns des autres, on le fêterait à Venise. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est chouette, non? Alors, j'ai téléphoné à Charef, il va tout arranger, on sera dans un hôtel où il y aura tout le confort, pour Eric ça ira très bien, pour tous les voyages. Moi je connais Venise, avec la Michaud j'ai été 3 fois parce qu'on est très amoureux, donc je connais, il n'y a aucun problème pour se balader, c'est formidable. Donc voilà, je pense que ça va être, on va faire, je sais pas, 3-4 jours, 4-5 jours, je sais pas, on verra. Mais ça va être super, hein. Vous rappelez, la dernière fois qu'on avait fait une tournée communautaire, c'était en Suisse, je crois. On avait été, c'était un loup, un chat, il restait bien. Et là, c'est Charef qui s'occupe de tout. Il est content de le faire. Bonjour Charef. On compte sur toi, donc on va louer aussi un minibus, on va bien s'amuser. Et puis louer Dieu aussi, dans la ville des amoureux. Et comme nous sommes amoureux les uns des autres, hein, ça fait des années, 40 ans, on est compte, 40 ans de vie communautaire. C'est pas rien. C'est pas rien. Bien, et ben par ça, rien, ça va bien. On a 3 personnes qui sont intéressées sur le château, donc on prie que ce soit l'un ou l'autre. Et voilà, ça avance, les choses avancent. Ici, il commence à faire beau. Ce matin, je vous donne des nouvelles, hein, comme ça, pour ceux qui sont sur Internet et qui nous connaissent un peu. Ce matin, avec la Michaud, on est allé au 2e cours. De dressage, c'est comme ça qu'on dit, pour notre chien. Oh, mais il est doué, hein. Moi, j'apprends plus de choses que lui. Enfin, c'était... Non, mais c'est vrai. On apprend des tas de trucs, c'est très intéressant. Et parce que les chiens qu'on a eus avant, c'était tout au feeling et à l'affection, mais quand même, ils étaient un petit peu foufous. On avait... Oh, non, ils tiraient sur la laisse, enfin bon... On a dit, dans la communauté, on est tous disciplinés, sauf le chien, ça va. Alors, on va lui apprendre un petit peu aussi la discipline. Voilà, et puis on est tombé sur une bonne école. La dame qui s'occupe du chien est vraiment formidable. Et puis, on fait ça à plusieurs. Et c'est voilà, c'est très communautaire. Il fait une connaissance avec un Saint-Bernard, avec toutes sortes de races. C'est très drôle de voir comment ils se sociabilisent. C'est comme ça qu'on dit. C'est intéressant. Ça nous donne des leçons aussi à nous. Bon, ce matin, on va faire une lecture dans Philippiens, au chapitre 3, versets 12 à 14. 12 à 14, vous pouvez ouvrir vos Bibles si vous voulez, mais je vais vous lire dans la version Parole Vivante d'Alfred Kuhn, la première version, celle que j'aime. Les suivantes sont un petit peu moins bien. Mais celle-là, la première, celle qu'il avait sortie au début, je la trouve formidable. Alors, Philippiens 3, 12, 14. C'est Paul qui parle et qui dit, ne croyez pas que je sois parvenu au but. Je ne pense pas avoir déjà remporté la palme. La perfection est encore devant moi. Je ne l'ai donc pas encore atteinte, mais je poursuis ma course pour essayer d'y parvenir et de saisir le prix. Vous voyez, l'humilité, hein. N'est-ce pas pour cela que Jésus-Christ s'est saisi de moi? Ben oui, dans un but, il y a un sens à la vie du chrétien. Non, mes frères, je n'ai pas du tout l'impression d'être un homme arrivé. Je ne pense pas avoir achevé la conquête et remporté la victoire, mais Je n'ai qu'une préoccupation, oubliant le passé et le chemin parcouru, je tends de tout mon cœur et de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Ça nous ressemble, hein? Ça nous ressemble. Les yeux rivés au but, je m'élance vers le prix de la course que Dieu nous appelle à recevoir là-haut, vers la vie céleste dans la communion avec Jésus-Christ. Amen. C'est magnifiquement écrit, c'est magnifiquement écrit. Il y a une chose que les grandes institutions de ce monde moderne ne font pas, elles ne donnent pas un sens à notre vie. En ce dernier siècle, moi je suis très content de vivre dans notre époque, nous sommes arrivés à accomplir, quand je dis nous, c'est l'être humain, à accomplir des choses absolument fantastiques grâce à la science, grâce aux découvertes technologiques, mais aussi grâce à l'état démocratique. C'est pas parfait, mais enfin quand même, ça nous permet de vivre des libertés qui ne sont pas connues partout dans ce monde, et je voyage beaucoup, je peux vous dire quand même, bon, on se plaint de la France, il y a de quoi, mais quand même, on est bien. On est bien. Hein, vous en êtes bien. Oh, vous en êtes bien. Qu'est-ce qu'on est bien, alors? Est-ce qu'on est bien? Non, il y a quand même bien des progrès à faire, mais bon. On a fait des pas en avant extraordinaires et en matière de savoir, en matière d'espérance de vie aussi, hein, j'en suis un exemple, de richesse aussi, parce que, on y a de belle de dire quand même, c'est vrai qu'il y a de la misère, il y a de la pauvreté, mais la plupart des gens, on est quand même des nantis, c'est-à-dire que si vous allez voyager dans le monde, vous allez voir des horreurs, des choses, c'est épouvantable. Et nous, de notre côté, ici, il y a eu beaucoup de progrès de fait quand même. Et nous devons chérir et protéger ces accomplissements de la civilisation humaine. C'est notre devoir, nous devons le faire. Mais, il y a toujours un mais. Dans notre 21e siècle, la grande majorité des gens sont face à un maximum de choix, mais à un minimum de sens. Toujours la fameuse phrase, dans quelle étagère? D'où viens-je? Qui suis-je? Qu'est-ce que c'est le sens de ma vie? Et je vois que même dans l'Église de Jésus-Christ, on dirait que la vie honnête qui est basée sur les enseignements de Jésus-Christ, c'est devenu secondaire, c'est devenu... Il y a une culture maintenant. Je me rappelle dans les années 60, quand on disait un chrétien évangélique, c'était un label de qualité, en quelque sorte. C'était des gens vraiment qui étaient consacrés et tout. Maintenant, c'est devenu une culture, un petit peu comme en Amérique. Je me rappelle dans les années 60, les vieux disaient « Ah, les born-again américains, ha, ha, ha !» Oui, parce que voilà, il y a une culture évangélique en Amérique. Et maintenant, en France, ça y est, c'est comme ça. Il y a une culture, n'est-ce pas? C'est devenu la bonne vie apportée par l'enseignement de Jésus-Christ, c'est devenu secondaire. Et cette vision, ce sens que Dieu donne à la vie, ben, c'est un peu passé à l'as maintenant. Être chrétien, c'est une tradition un peu quand même, faut avouer. Hein. Vous voyez, pour nous qui sommes membres du corps de Christ, l'évangile, la résurrection de Jésus, son expiation, c'est des fondements essentiels. Ce sont des fondements essentiels et ils donnent également un sens à notre vie. Par exemple, cette doctrine du salut maintenant, non seulement nous évangélisons les vivants, mais nous savons que nous avons un rôle à jouer pour nos ancêtres. Et ça donne un sens à notre vie, à notre communauté. On est très occupés avec cela et ça donne une raison, un sens à notre vie. Vous voyez, Jésus a inspiré des croyances, il a établi des principes de conduite, et quant à ce qui est moral, à ce qui est juste, à ce qui est désirable, et ça nous permet d'avoir une bonne vie. Alors, j'aime bien le texte de Paul, là, quand il dit, voilà, la vie éternelle, tout ça, c'est bien, c'est ça, c'est le but suprême. Mais déjà, dans le monde, eh bien, nous avons aussi des buts à atteindre qui sont louables, honorables, et Jésus en parle très clairement. Dans le monde, des principes de la moralité de base que le Sauveur a enseigné, ces principes-là sont violemment attaqués. je dirais même que le christianisme est violemment attaqué. Et vous me direz, oh, mais c'est pas nouveau. Et vous avez raison, c'est pas nouveau. On peut pas dire que ce soit un signe de la fin des temps. Pour ceux qui voient toujours des signes de la fin des temps, il faut aussi regarder un peu ce qui s'est passé avant. Quand vous voyez l'apôtre Paul, par exemple, quand il était à Athènes, eh ben, quelle sorte de personne il avait affaire? Eh bien, vous trouvez ça dans Actes 17, 18, il avait affaire à des stoïciens et des épicuriens. Alors, les stoïciens, c'était, ils croyaient, hein, je vous résume en gros, que le plus grand bien c'était la vertu, et les épicuriens croyaient que c'était le plaisir. Et puis alors bon, bah ça discutait beaucoup, puis ça créait des façons de vivre, de se comporter. Beaucoup de stoïciens, n'est-ce pas, qui prônaient la vertu, ces choses-là étaient devenues des hypocrites, des orgueilleux qui se servaient de leur philosophie pour comme d'un manteau pour couvrir leurs ambitions et leurs iniquités. Oui, rien de nouveau, c'est maintenant, ça se voit plus, disons, parce qu'on a les médias qui nous rabâchent toutes ces choses-là. Et puis alors, beaucoup d'épicuriens étaient devenus ce qu'on appelle des hédonistes, c'est-à-dire des gens qui avaient pris pour devise « mangeons, buvons, car demain nous mourrons ». Moi, quand j'étais gamin, il y avait ça dans la salle à manger. Hein. Mon père avait acheté une assiette sur laquelle c'était écrit « aime, mange, bois, demain tu mourras ». Voilà. C'était très gai, hein. Alors, il y avait Aristote qui plaidait en faveur de la contemplation intellectuelle. Bon, tout ça, c'est... Alors, c'est bien, là, il y a un bouquin que Mélodie et Eric Jacques, ma fille et ma belle-fille, ils ont trouvé ça, et je vous le recommande. C'est un auteur, il s'appelle Alexandre Jolien. C'est édité chez Cerf. Le bouquin s'appelle « Éloge de la faiblesse ». Je vous le recommande, il devrait être obligatoire. Achetez ça, c'est un tout petit bouquin, il y a en 3 heures c'est lu, il y a 101 pages ou 102 pages. C'est très vite lu, mais on y revient. Là, elle me l'a prêté, je l'ai acheté. Et puis j'en ai acheté plusieurs, comme ça je sais quoi offrir aux anniversaires. Et puis il a écrit d'autres choses que j'ai acheté aussi, parce que c'est vraiment un régal. La philosophie, c'est pas mal la philosophie. Mais voilà, bon... Nous avons aussi une philosophie chrétienne. La philosophie, c'est la sagesse, l'amour de la sagesse. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de ces philosophes d'autrefois, qui s'opposaient aux chrétiens d'alors, parce qu'il faut voir comment ils sont opposés à Paul, n'est-ce pas ? Eh bien, ils s'opposaient aux chrétiens d'alors, et ces gens-là sont encore présents aujourd'hui, puis il y en a des nouveaux avec des nouvelles philosophies, aujourd'hui, qui sont là, qui sont en désaccord avec l'évangile de Jésus-Christ. Et depuis que je me suis converti en 1968, vous le savez, je peux dire que j'ai vu qu'en très peu de temps, le monde s'est mis à appeler le mal bien et le bien mal. Avant, c'était mais vraiment très différent. Je ne sais pas si vous avez vu ce vieux film « Le Père » avec Fernandel. Ce n'est pas un film rigolo du tout. Tâchez de vous procurer ça, vous allez sur Amazon ou je ne sais pas où. Le père, le voyage du père plus exactement, vous allez voir, c'était comme ça, il y avait encore ces notions de bien, de mal, etc. Maintenant, ces deux mots-là, bien, mal, ces deux mots reflètent ce qui se passe aujourd'hui plus que jamais. On a affaire à une génération qui n'est pas chrétienne, mais qui rabaisse le christianisme en acceptant le mythe que la vie sera meilleure après la mort, ou il n'y a rien après la mort, mais il y en a qui gardent quand même un petit peu de trucs chrétiens. Moi, je fais souvent des enterrements, et je vais souvent à des enterrements. Quand on devient vieux, j'ai remarqué, c'est un truc, ça on va souvent, plus souvent aux enterrements que quand on est jeune. Eh bien, quand je vais aux enterrements, mais chaque fois, on entend des féfis païens qui disent « Ah, il est mieux là où il est, hein. Elle a tellement souffert, elle est mieux là où elle est. » Mais bon, je ne sais pas trop, hein. On ne sait pas trop. Ce n'est pas tellement la doctrine de Christ, ce n'est pas tellement ce que Jésus enseigne. Alors, évidemment, un jour j'avais été trouver un prêtre en lui disant, mais il venait de faire un enterrement, et puis je suis allé derrière, je lui ai dit, vous vous rendez compte, les mensonges que vous avez racontés à ces gens, il me dit, vous ne voulez que je leur dise quoi ? Que leur grand-mère est en enfer, que c'était une salope et tout. Évidemment, on peut pas. Mais voilà. C'était il m'a carrément dit, c'est une salope. Bon, voilà. Donc voilà, une espèce d'évangile, pas vrai, pas vrai. Mes frères et sœurs, je vous assure que le fait de suivre Jésus-Christ, le Sauveur ici-bas, ça apporte le bonheur dans cette vie ici-bas et dans les cieux. Après, ça c'est vrai, et ici, mais déjà ici-bas, on peut connaître un bonheur, une joie de vivre. Jésus ne nous demande pas de choisir le mieux, il nous demande de choisir le bien. Très différent. Alors aujourd'hui, c'est simple, les Laodicéens, c'est-à-dire les gens tièdes, ont trouvé deux listes de morale. Mais c'est inconscient, mais ils ont deux listes de morale. Vous voulez les connaître? La première, c'est le curriculum vitae. Vous connaissez ça? Le curriculum vitae, hein, ceux qui cherchent du travail, vous savez ce que c'est. Les vertus qui indiquent, n'est-ce pas, les compétences que vous allez pouvoir apporter dans le marché du travail, voilà, alors c'est tout le bien que vous avez. Formidable, curriculum vitae. La seconde liste, attention, c'est les éloges funèbres. Eh oui, les vertus qu'on prononce, n'est-ce pas, lors des obsèques, lors de vos obsèques, il y aura une éloge funèbre, n'est-ce pas. Voilà. Et il faut bien l'avouer, pour la plupart des gens, les éloges funèbres sont beaucoup plus nourris de vertus que leur curriculum vitae. J'ai eu l'occasion d'assister il y a quelque temps aux obsèques de deux chrétiens que je connaissais depuis longtemps et qui sont morts à quelques jours d'intervalle. Alors, je ne vais pas vous dire leur nom parce que voilà, je ne vais pas vous dire leur nom, mais on va leur donner des noms. Je vais appeler le premier riche et le deuxième, je vais l'appeler fidèle. Ils sont morts donc à quelques jours d'intervalle et ça m'a marqué. Ce qui a été dit aux obsèques m'a marqué. Ce qui a été dit là démontrait la complexité de faire la distinction entre les vertus pour le curriculum vitae et celles de l'éloge funèbre. Très complexe. Riche et fidèle, ils avaient tous les deux fait des études bibliques. Ils avaient travaillé tous les deux dans des œuvres d'évangélisation en tant que bénévoles. Et puis ils se sont mariés et Riche a épousé une très belle jeune fille. Et au bout de quelques années, elle a cessé d'aller à l'église. C'est une question de dîme, ça l'embêtait beaucoup. Donc elle a réussi à convaincre son mari qu'il fallait voir. Voilà. Et puis, fidèle, lui, a aussi épousé une très jolie jeune fille. Mais par contre, elle était très fidèle à l'église. Et en fait, c'est ça qui est le facteur qui a orienté les décisions de Riche et de fidèle. C'est leur mariage. Bon, pour Riche, il avait un talent vraiment formidable. Il communiquait d'une façon, c'était pour lui très facile, il communiquait très facilement, et puis il était gentil, il se souciait des gens, c'est vrai, il faisait des bonnes œuvres, il a débuté dans une entreprise, et puis quelques années après, ben, il en est devenu le président, c'était un homme brillant, et il avait des revenus très élevés, il habitait une super villa, magnifique, et voilà pourquoi j'ai décidé de l'appeler Riche, parce que voilà, c'était visible, quoi. Bon. Ses choix professionnels, ils étaient bons. C'est pas que c'était pas bon. Cependant, ses choix concernant sa famille et l'Église n'étaient pas justes. Riche, c'était un homme bon. On ne peut pas dire qu'il n'était pas bon. Il ne faisait pas de choix personnels mauvais en soi. Mais ses décisions concernant sa famille et son influence sur ses enfants se concentraient presque exclusivement sur les études et sur l'emploi, c'est-à-dire essentiellement les qualités pour un bon curriculum vitae. Ces deux fils, bon, ils se sont lancés aussi dans d'excellentes carrières, et ils ont épousé des non-croyantes. Alors, je ne connais pas exactement tous les détails de la vie de leur fils, mais bon, ça s'est terminé il y a quelque temps par deux divorces. Voilà. Riche et son épouse, ça faisait des années qu'ils n'allaient plus à l'église, et donc ils ne persévéraient pas dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans le pain, le vin, comme il nous est dit que les premiers chrétiens faisaient. Ils se réunissaient pour ça, n'est-ce pas? Mais Riche, il se considérait comme un disciple. Mais vraiment comme un disciple. Là, il y a un frère qui m'a téléphoné encore il y a quelques jours en me disant « Ah, je me réjouis de venir chez toi, j'ai un très bon enseignement sur la vie de disciple. » Ah, j'ai dit « Je suis content, je me réjouis d'entendre ça. » J'ai dit « Je vais juste te dire une chose, c'est que tous ceux que j'ai entendu prêcher sur la vie de disciple, ou tous les bouquins que j'ai lus au sujet de la vie de disciple, ils prennent tous les versets qui parlent de ça, sauf Luc 14:33. Et il m'a dit, ah bon, ben je vais regarder ça et je vais en parler. Ben, ça m'étonnerait beaucoup qu'il en parle. Parce que Luc 14:33, c'est quiconque ne renonce pas à tous ses biens ne peut pas être mon disciple. Alors, si on peut pas être disciple, tu peux faire tout ce que tu veux à côté, t'es pas disciple parce que, voilà. Maintenant, ça veut pas dire que les gens vont aller en enfer parce qu'ils ont pas renoncé à tous leurs biens. Mais si on veut être disciple, il y a un prix à payer. On peut être chrétien, là, c'est bien. Par contre, Riche, lui, il se considérait comme un disciple. Ben, il n'allait même pas à l'église. De temps en temps, il donnait des sommes assez importantes à l'église. Et s'il était honnête, il était même, on peut le dire, un exemple d'intégrité et de bienveillance dans tous les postes qu'il occupait. Il n'y a rien à dire. Ses obsèques ont eu lieu dans une chapelle interconfessionnelle dans le cimetière. Il y avait beaucoup de monde, à l'exception de ses deux fils et ses petits-enfants. Toutes les personnes qui étaient là étaient des personnes qui étaient âgées de plus de 50 ans. Et ça a été des obsèques lugubres, mais vraiment lugubres. Les principes du plan du salut en Jésus-Christ n'ont pas été exposés, enseignés. D'ailleurs, on a le prêtre, c'était un prêtre, n'a presque pas parlé de Jésus. Quelques jours après, donc, je suis allé à l'enterrement de l'autre ami, que je nommerai Fidèle. Alors, sa réussite professionnelle à lui, c'était pas aussi brillant. C'est pas parce qu'il était fidèle à l'église que il n'était pas aussi brillant, mais simplement, il avait moins de talent, il avait pas cette brillance, il avait pas cette... Mais, bon, il avait quand même une jolie maison, c'était pas le grand luxe, mais c'était bien, c'était super, c'était coquet, c'était... Il aimait son travail, il aimait les gens, son succès professionnel était tout à fait correct, c'était bien, mais c'était pas comme l'autre qui était, voilà, c'était pas exceptionnel. Bref, il avait pas grand chose à mettre dans son curriculum vitae. C'est ça que je veux dire. Par contre, ses choix concernant sa famille et l'église étaient vraiment bien meilleurs. Il était fidèle à l'église, servant Dieu, servant ses frères et sœurs, partant de temps en temps en mission pour faire de l'évangélisation. Ses enfants avaient fait de bonnes études. Il a perdu un de ses fils, malheureusement. Toujours cette congénérie de cancer. Mais il est demeuré ferme, il est demeuré fidèle. Et puis il avait des satisfactions dans sa vie, des joies tout au long de sa vie, avec sa famille. Grâce au but, grâce au sens que lui donnait l'enseignement de Jésus-Christ et la foi profonde qu'il avait en Jésus-Christ, le sens. Avez-vous un sens à votre vie avec Jésus-Christ ou est-ce que c'est juste une tradition, une culture ou je ne sais pas quoi? Alors, je suis allé aux obsèques et je peux dire que ça a été des obsèques joyeuses. Mais vraiment, vraiment. Il y avait beaucoup de monde dans l'église, les gens de tout âge étaient là, il y avait son épouse, il y avait son fils, il y avait ses deux belles-filles, les petits-enfants, il y avait ses collègues de travail, des connaissances qu'il avait dans toutes sortes de milieux sportifs et compagnie. Et le plan du salut a été clairement prêché. Donc, tous ceux qui étaient inconvertis ont entendu le message. Donc, jusqu'au bout, il aura, même mort, sa mort a aussi servi, n'est-ce pas, à faire de l'évangélisation. Jésus était le centre de cette cérémonie. C'était pas lui. C'était pas le fidèle. C'était lui, Jésus-Christ, qui était le centre. Et plusieurs personnes ont pris la parole et tous ont parlé de sa gentillesse, de son souci des autres, de sa foi, de son amour pour Jésus. Alors je vous dis tout ça ce matin pour vous mettre en face de vos deux listes. Votre curriculum vitae, je sais pas, c'est comme ça qu'on dit, curriculum, moi et le latin. Hein. Alors le curriculum vitae est aussi votre éloge funèbre. Le choix que nous avons à faire, les choix que nous faisons décident de notre bonheur ici-bas, et de ce que vous laisserez derrière vous, mais surtout, ça décidera de la portée éternelle. Vos choix décideront, n'est-ce pas, de la qualité de votre vie éternelle. Je ne dis pas que Riche était perdu, mais il va perdre des récompenses. La Bible dit, celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Mais il n'a rien fait de... Bon, il était trempé dans l'eau une fois, voilà, c'est tout. C'est terrible. Puis il était honnête et tout ce que vous voulez. Mais voilà. Il n'y avait pas une vie spirituelle. Mes frères et sœurs, nos choix ont une portée éternelle. Vous savez, les choix les plus décisifs peuvent être faits par chacun de nous, indépendamment de nos talents. Fidèle était moins talentueux que Riche. Indépendamment de nos capacités, indépendamment de nos possibilités qui se présentent à nous, on peut faire des choix. Et aussi indépendamment de notre situation économique. Parce que pourquoi ? Parce que nous avons la foi en Jésus-Christ qui est notre rémunérateur. On a un sens à notre vie, on a toujours cette espérance, cette foi. Et cet amour pour Jésus-Christ, nous savons que si nous lançons dans quelque chose, Jésus est avec nous. Nous le savons, nous avons cette certitude. Ça donne beaucoup de piment à la vie. En tout cas, pour moi, en assistant à ces deux cérémonies, j'ai compris que pour moi, pour mon épouse, ma belle-fille, mon gendre, mes petits-enfants, ma belle-mère, mes frères et sœurs de la communauté, tous mes amis, frères et sœurs des églises que je connais, et mes amis, bref, pour tous ceux sur lesquels j'ai l'occasion d'avoir un peu d'influence, c'est essentiel que je place le Sauveur, Jésus-Christ, ma famille et la communauté en premier. C'est essentiel. Pas seulement pour moi, mais c'est essentiel pour tous ceux qui me côtoient. C'est essentiel. Vous savez, dans les pires moments de l'existence, quand tout s'effondre, je dis pas quand tout est sur le point de s'effondrer, mais même quand tout s'effondre, la famille et l'évangile de Jésus-Christ sont des bases solides, si on les a. Je lisais il y a quelque temps dans 1 Néphi 2:4, c'est dans le livre de Mormon, il est écrit cela, et il arriva qu'il partit, donc, dans le désert. Il quitta sa maison, et le pays de son héritage, ça fait penser un peu à Abraham, hein. Son or, son argent, ses choses précieuses, il ne prit rien avec lui que sa famille, ses quelques provisions et des tentes, et il partit dans le désert. Mes frères et sœurs, je prie pour que cette génération de chrétiens relève le défi de protéger la foi et la famille. Là, on va arriver au 26, il va y avoir un moment de prière spécial. Vous connaissez, vous qui êtes sur Révélation Bible, que nous avons des moments de prière spéciaux. Le monde de la sorcellerie est enragé en ce moment, et nous avons à nous tenir devant les portes infernales afin de repousser nos ennemis derrière les portes, derrière ces portes-là. Parce que ça va aller de plus en plus mal, mais il faut quand même limiter les dégâts. Et dans la prière, on peut prendre position et lier les mauvais esprits et les empêcher de faire ce qu'ils ont décidé de faire. Ils sont en ce moment derrière leur porte jusqu'au 26. Si vous ne savez pas pourquoi, ben vous allez regarder sur Révélation Bible, vous aurez toutes les indications. Et ils sont en train de concocter des plans d'attaque. Là, on approche des élections pour la France, pauvre France. Priez pour ça. Priez pour ça. Tenez-vous devant ces portes et ayez pitié de ce pays afin que nous puissions encore rapporter l'évangile et que des gens soient sauvés et que des gens soient guéris. Dans les difficultés et dans les épreuves de l'existence, il se produit de nombreuses choses, de nombreux événements sur lesquels on a peu ou pas d'impact, de contrôle. Mais pour ce qui est des principes de conduite et de l'observance des ordonnances chrétiennes et de la droiture, ça, nous sommes les commandants. Vous êtes seul maître à bord après Dieu. Il n'y a pas d'excuse. Vous pouvez le faire. Si, tu peux le faire. Jésus est avec toi et tu peux le faire. Notre foi en Dieu, le Père, et en Jésus-Christ, son Fils, et le culte que nous leur rendons, c'est un choix que nous faisons. Et le culte qui est raisonnable, vous vous rappelez ce qu'il dit l'apôtre Paul, il ne dit pas que c'est d'aller s'asseoir sur les bancs d'église, mais c'est une vie conforme aux Écritures. Et une vie conforme aux Écritures, ça comprend aussi le moment où on se réunit entre frères et sœurs pour louer Dieu, l'adorer, écouter sa parole, apprendre, et puis ensuite aller dire aux autres. Par ces prédications, je ne cherche pas à dire qu'il ne faut pas faire d'études. Je ne dis pas non plus que vous les parents, vous ne devez pas pousser vos enfants à faire des études. Pas du tout, je ne dis pas ça. Je dis simplement que lorsque nous plaçons les buts en relation avec les études et les métiers, et que nous plaçons tout cela au-dessus de la famille et au-dessus de l'Église, et du témoignage que nous devons rendre de Jésus-Christ, eh bien les conséquences qui ne sont pas voulues, on ne veut pas ça, mais les conséquences, les choses qui arrivent, eh bien, vous allez payer le prix. Vous allez payer le prix. Ces conséquences non voulues de l'importance excessive que vous donnez au curriculum vitae, c'est des qualités inutiles qui peuvent s'avérer profondément néfastes. C'est pas complètement inutile, parce que c'est vrai qu'il vaut mieux bien vivre que mal vivre, mais il y a un équilibre, il y a un équilibre. Se dire, vous voyez par exemple la parabole de l'homme qui dit « Oh, j'ai rempli mes granges, c'est bien, je vais les détruire, reconstruire de plus grandes et tout. » C'est pas mal de le faire. C'est pas mal de le faire. Nous aussi, on est en train de se dire, on va vendre le château, et puis là, on a trouvé quelque chose qui est encore plus grand, et c'est normal de le faire. Mais quel est le sens? Quel est le but? Pourquoi on fait? Vous voyez? C'est pas le fait d'être riche qui est pas bien. C'est le fait de ne pas être fidèle aux enseignements de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, je suis certain que vous pouvez atteindre la joie et le bonheur que vous désirez et que Dieu vous destine. Il a un destin de bonheur pour vous. Il n'est pas là derrière le mur en train d'attendre pour vous ficher des coups de pied. Non. Mais il y a des conditions. Il y a des conditions. La première condition, c'est d'être engagé vis-à-vis des principes éternels qui donnent un sens à votre vie. La deuxième condition, c'est d'être déterminé à ce que les vertus qui sont mentionnées, qui seront mentionnés dans votre éloge funèbre, surpassent votre curriculum vitae. Et une autre condition, il doit y en avoir encore d'autres, mais j'ai pensé à ces trois-là, c'est de préparer, d'être prêt, de se préparer à faire un rapport au Seigneur, comme quoi vous avez mené une vie conforme à sa volonté. Parce que vous savez, la rencontre la plus importante que chacun de nous va faire de l'autre côté du voile, ça sera avec Jésus-Christ. Hein, c'est joli le cantique « Dieu pèlerin, je vais revoir ma mère, je vais revoir mon père ». Oui, mais d'abord, on va voir Jésus-Christ, et puis là, on va faire les comptes. Hein. Pas pour savoir si vous êtes perdu ou sauvé, il vous a sauvé par grâce, mais pour savoir quelle est la qualité de vie éternelle que vous allez avoir. Donc je pense qu'on va pouvoir encore progresser dans la vie éternelle. Mais mince, vous risquez de regretter de vous être occupé que de votre liste curriculum vitae plutôt que de votre éloge funèbre. Vous m'avez compris, vous avez compris ce que je veux dire. Alors, quel que soit votre passé, vos ancêtres, vos tares congénitales, que vous ayez été riche ou pas, nous aurons un rapport à faire au sujet de notre respect des commandements que nous avons reçus, on ne peut pas dire qu'on ne les a pas reçus, et nous devons vivre de manière à recevoir cette invitation de Jésus qui dit « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître » ou « Entre dans ses portes avec des louanges » ou « Entre dans ses parvis avec des cantiques et des acclamations pour ton Dieu. Célèbre ton Dieu. » Alors, vous croyez que vous allez arriver là-haut et que vous allez célébrer Dieu si vous n'avez pas commencé déjà sur terre à le faire? Moi, je doute fort. Hein. C'est ici qu'on apprend. Tout s'apprend ici. Et quand vous allez passer de l'autre côté, vous serez tel que vous aurez été sur cette terre. Et si sous cette terre, quand on vous dit louer le Seigneur, vous faites
Jésus, merci Seigneur.
Et ben, vous arriverez dans les parvis là-haut. Vous allez être étonné, hein, parce que Dieu est très pentecôtiste. La Bible nous dit que ça tape des mains, ça joue de la trompette, ça. Hein, c'est fort, c'est très fort. Et je vous encourage à louer Dieu, pas seulement en paroles fortes, mais aussi en actions fortes, afin que votre éloge funèbre soit meilleur que votre curriculum vitae. Que Dieu vous bénisse. Je suis sûr que vous avez compris ce que je voulais vous dire, mais j'ai choisi de prendre ces deux listes-là parce que c'est quelque chose qui frappe l'imagination et vu les deux enterrements que j'ai vus, ça m'a inspiré de vous dire ces choses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus, je te prie d'aider mes frères et sœurs à prendre conscience de ton proche retour et de se décider à se mettre vraiment au travail et à piocher dans les Écritures pour pouvoir trouver tout ce qu'il y a à faire et non pas simplement tout ce qu'il ne faut pas faire. Merci Jésus. Amen. 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 Bonne fin de journée. Dieu vous bénisse.